Elle décida de rentrer à pied et se trompa de chemin sans s'en rendre compte. Au lieu de prendre à gauche et de descendre le boulevard Montparnasse pour rejoindre l'école militaire, elle alla tout droit et se retrouva dans la rue de Rennes. C'était à cause des boutiques, des guirlandes, de l'animation. Elle était comme un insecte, attirée par la lumière et le sang chaud des foules. Elle avait envie d'en être, d'être comme eux, pressée, excitée, affairée. Elle avait envie d'entrer dans des magasins et d'acheter des bêtises pour gâter les gens qu'elle aimait. Elle ralentissait déjà. Qui aimait-elle au fait ? Allons, allons, se reprit-elle en remontant le col de sa veste. Ne commence pas, s'il te plaît. Il y avait Mathilde et Pierre et Philibert, et tes copines de Serpillière. Là, dans ce magasin de bijoux, tu trouveras sûrement un colis fiché pour Mamadou, elle qui est si coquette. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle fit la même chose que tout le monde en même temps que tout le monde. Elle se promena en calculant son 13e mois. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle ne pensait pas au lendemain. Et ce n'était pas une expression. C'était bien du lendemain qu'il s'agissait, du jour d'après. Pour la première fois depuis bien longtemps, le jour d'après lui semblait envisageable. Oui, c'était exactement ça, envisageable. Elle avait un endroit où elle aimait vivre, un endroit étrange et singulier, tout comme les gens qui l'habitaient. Elle serrait ses clés dans sa poche et repensait aux semaines qui venaient de s'écouler. Elle avait fait la connaissance d'un extraterrestre, un être généreux, décalé, qui se tenait là, à 1000 lieues au-dessus de la nuée et semblait n'en tirer aucune vanité. Il y avait l'autre Bécassou aussi, bon, avec lui ce serait plus compliqué. À part ses histoires de motards et de casseroles, elle voyait mal ce que l'on pouvait en tirer, mais du moins avait-il été ému par son carnet. Enfin ému, comme elle y allait, interpellé, disons. C'était plus compliqué et ce pouvait être plus simple. Le mode d'emploi semblait assez sommaire. Oui, elle avait fait du chemin, songeait-elle, en piétinant derrière les badauds. L'année dernière, à la même époque, elle était dans un état si lamentable qu'elle n'avait pas su dire son nom au gars du SAMU qui l'avait ramassé. Et l'année d'avant encore, elle travaillait tellement qu'elle ne s'était pas rendu compte que c'était Noël. Son bienfaiteur s'étant bien gardé de lui rappeler de crainte qu'elle ne perde la cadence. Alors quoi, elle pouvait le dire, non ? Elle pouvait les prononcer ces quelques mots qui lui auraient encore arraché la bouche il n'y avait pas si longtemps. Elle allait bien, elle se sentait bien et la vie était belle. Ouf, c'était dit. Allez, ne rougis pas, idiote, ne te retourne pas. Personne ne t'a entendu murmurer ses insanités, rassure-toi. Elle avait faim. Elle entra dans une boulangerie et s'acheta quelques chouquettes. Petite chose idéale, légère et sucrée. Elle se sécha longuement le bout des doigts avant d'oser retourner dans un magasin et trouva des bricoles pour tout le monde. Du parfum pour Mathilde, des bijoux pour les filles, une paire de gants pour Philibert et des cigares pour Pierre. Pouvait-on décemment être moins conventionnel ? Non. C'était les cadeaux de Noël les plus bêtes du monde et c'était des cadeaux parfaits. Elle finit sa course près de la place Saint-Sulpice et entra dans une librairie. Là aussi, c'était la première fois depuis bien longtemps. Elle n'osait plus s'aventurer dans ce genre d'endroit. C'était difficile à expliquer, mais cela lui faisait trop mal. Elle ne pouvait dire cela, cet accablement, cette lâcheté, ce risque qu'elle ne voulait plus prendre. Entrer dans une librairie, aller au cinéma, voir les expositions, ou jeter un regard aux vitrines des galeries d'art, c'était toucher du doigt sa médiocrité, sa pusillanimité, et se souvenir qu'elle avait jeté l'éponge un jour de désespoir et qu'elle ne l'avait plus retrouvée depuis. Entrer dans n'importe lequel de ces endroits qui tenaient sa légitimité de la sensibilité de quelques-uns, c'était se souvenir que sa vie était vaine. Elle préférait les rayons du Franprix. Qui pouvait comprendre cela ? Personne. C'était un combat intime, le plus invisible de tous, le plus lancinant aussi. Et combien de nuits de ménage, de solitude et de corvées de chiottes devrait-elle encore s'infliger pour en venir à bout ? Elle esquiva d'abord le rayon des beaux-arts, qu'elle connaissait par cœur, pour l'avoir beaucoup fréquenté, du temps où elle essayait d'étudier dans l'école du même nom, puis, plus tard, à des fins moins glorieuses. D'ailleurs, elle n'avait pas l'intention de s'y rendre. Il était trop tôt, ou trop tard, justement. C'était comme cette histoire de petits coups de talon. Peut-être qu'elle était à un moment de sa vie où elle ne devait plus compter sur l'aide des grands maîtres. Depuis qu'elle était en âge de tenir un crayon, on lui avait répété qu'elle était douée, très douée, trop douée, très prometteuse, bien trop maligne ou trop gâtée. Souvent sincère, d'autres fois plus ambiguë, ses compliments ne l'avaient menée nulle part. Et aujourd'hui, alors qu'elle n'était plus bonne qu'à remplir frénétiquement des carnets de croquis comme une sangsue, elle se disait qu'elle échangerait bien ses deux barils de dextérité contre un peu de candeur. Ou contre une ardoise magique, tiens. Hop, plus rien là-haut. Plus de technique, plus de référence, plus de savoir-faire, plus rien. On recommence tout à zéro. Elle flâna donc parmi les livres. Elle se sentait perdue. Il y en avait tant, et elle avait perdu le fil de l'actualité depuis si longtemps, que tous ces bandeaux rouges lui donnaient le tournis. Elle regardait les couvertures, lisait les résumés, vérifiait l'âge des auteurs et grimaçait quand ils étaient nés après elle. Ce n'était pas très malin comme méthode de sélection. Elle se dirigea vers le rayon des poches. Le papier de mauvaise qualité et les petits caractères d'imprimerie l'intimidaient moins. Un peu plus loin, elle vit le dernier album de Sampé. Elle défit son écharpe et la coinça avec son manteau entre ses jambes pour s'émerveiller plus confortablement. Elle tourna les pages lentement et comme à chaque fois, elle eut les joues roses. Elle n'aimait rien tant que ce petit monde de grands rêveurs, la justesse du trait, les expressions des visages, les marquises des pavillons de banlieue, les parapluies des vieilles dames, et l'infinie poésie des situations. Comment faisait-il? Où trouvait-il tout cela? Quelques pages plus loin, un monsieur se retourna en l'entendant rire toute seule. Camille reposa cette merveille en songeant que le monde était séparé en deux catégories. Ceux qui comprenaient les dessins de Sampé et ceux qui ne les comprenaient pas. Si naïve et manichéenne qu'elle pût paraître, cette théorie lui semblait tout à fait pertinente. Pour prendre un exemple, elle connaissait une personne qui, à chaque fois qu'elle feuilletait un Paris Match et avisait l'une de ses scénettes, ne pouvait s'empêcher de se ridiculiser. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Il faudra que quelqu'un m'explique un jour où l'on doit rire. Pas de chance, cette personne était sa mère. Non, pas de chance. En se dirigeant vers les caisses, elle croisa le regard de Vuillard. Là encore, ce n'était pas une expression. Il la regardait, elle, avec douceur. Autoportrait à la canne et au canotier. Elle connaissait ces tableaux, mais n'avait jamais vu de reproduction aussi grande. C'était la couverture d'un énorme catalogue. Ainsi donc, il y avait une exposition en ce moment. Mais où?
Au Grand Palais.
Ah.
C'était étrange comme coïncidence. Elle n'avait cessé de penser à lui ces dernières semaines. Sa chambre aux tentures surchargées, le châle sur la méridienne, les coussins brodés, les tapis qui s'enchevêtraient et la lumière tamisée des lampes. Plus d'une fois, elle s'était fait cette réflexion, qu'elle avait l'impression de se trouver à l'intérieur d'une toile de Vuillard. Ce même sentiment de ventre chaud, de cocon, atemporel, rassurant, étouffant, oppressant aussi. Elle feuilleta l'exemplaire de démonstration et fut reprise d'une crise d'admirationnite aiguë. C'était si beau, si beau. Une bonne heure et un torticolis plus tard, elle finit par lever le nez et regarda le prix. Aïe, 59 euros. Non, ce n'était pas raisonnable. Le mois prochain peut-être. Pour elle, elle avait déjà une autre idée. Un morceau de musique qu'elle avait entendu sur FIP l'autre matin en balayant la cuisine. Elle ronchonnait entre deux cabochons quand la voix d'une soprano était venue lui décoller un à un tous les poils des avant-bras. Elle s'était approchée de l'animatrice en retenant sa respiration. « Nisi Dominus, Vivaldi, Vespri Solenni, per la festa dell'Assunzione, di Maria Vergine. » Bon, assez rêvé, assez bavé, assez dépensé. Il était temps d'aller travailler. Ce fut plus lent ce soir-là à cause de l'arbre de Noël, organisé par le comité d'entreprise de l'une des sociétés dont elles avaient la charge. Josie secoua la tête de désapprobation en avisant tout le bordel et Mamadou récupéra des dizaines de mandarines et des mini-viennoiseries pour ses enfants. Elles ratèrent tout le dernier métro, mais ce n'était pas grave. Tout clean leur payait le taxi à toutes. Byzance ! Chacune choisit son chauffeur en gloussant et elles se souhaitèrent un joyeux Noël en avance puisque seules Camille et Samia s'étaient inscrites pour le 24. Le lendemain, dimanche, Camille déjeuna chez les Kessler. Impossible d'y couper. Ils n'étaient que tous les trois et la conversation fut plutôt gaie. Pas de questions délicates, pas de réponses ambiguës, pas de silence gêné. Une vraie trêve de Noël. Ah si. À un moment, quand Mathilde s'inquiéta de ses conditions de survie dans leur chambre de bonne, Camille dut mentir un peu. Elle ne voulait pas évoquer son déménagement. Pas encore. Méfiance. Le petit roquet n'était pas tout à fait parti et un psychodrame pouvait bien en cacher un autre. En soupesant son cadeau, elle assura.
Je sais ce que c'est.
Non.
Si.
Vas-y alors, dis-le. Qu'est-ce que c'est?
Le paquet était emballé avec du papier Kraft. Camille défit le bolduc, le posa bien à plat devant elle et sortit son Critério. Pierre buvait du petit lait. Si seulement elle pouvait s'y remettre cette bourrique. Quand elle eut fini, elle retourna son dessin vers lui. Le canotier, la barbe rousse, les yeux comme deux gros boutons de culotte, la veste sombre, l'encadrement de la porte et le paume ouvrier. C'était exactement comme si elle venait de décalquer la couverture. Pierre mit un moment avant de comprendre.
Comment tu as fait?
J'ai passé plus d'une heure hier à le regarder.
Tu l'as déjà?
Non.
Ouf.
Puis...
Tu t'y remises?
Un peu.
Comme ça?
Fit-il en indiquant le portrait d'Edouard Vuillard.
Encore le petit chien savon?
Non, non. Je remplis des carnets, enfin presque rien, des petites choses, quoi.
Tu t'amuses au moins?
Oui.
Il frétillait.
Ah, parfait. Tu me montres?
Non.
Et comment va ta maman?
Coupa la très diplomate Mathilde.
Toujours au bord du gouffre?
Au fond, plutôt.
Alors c'est que tout va bien, n'est-ce pas?
Parfaitement bien.
Ils passèrent le reste de la soirée à pérorer peinture. Pierre commenta le travail de Vuillard, chercha des affinités, établit des parallèles et se perdit dans d'interminables digressions. Quand son visage eut presque disparu derrière les volutes de son cigare, il lui proposa de la raccompagner en voiture. Elle refusa. Elle avait trop mangé et une longue marche s'imposait. L'appartement était vide et lui sembla beaucoup trop grand. Elle s'enferma dans sa chambre et passa l'autre moitié de la nuit le nez dans son cadeau.